Sexe. Exploratrice. Avec Mel Trudel.
La Sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de la Sexploratrice accompagnée de Mel et Max.
Oui, allô, bonsoir.
Max.
Mel.
Je t'aime, tu sais, hein?
Ben, c'est partagé, moi aussi je t'aime.
On commence par rien.
On commence avec une déclaration d'amour.
Une déclaration d'amour et, on va le mentionner aux auditeurs. En fait, tu as eu droit à une belle, bref, t'es sur ton X, hein? On dit comme ça.
Pour reprendre l'expression à la mode.
T'es sur ton X. Et, et moi, eh bien, étant polyradio, je vais éventuellement co-animer cette émission-là. En fait, je vais avoir en ma compagnie d'autres personnes, finalement, que je vous présenterai dès la semaine prochaine.
Qui seront avec toi à la co-animation de la Sexploratrice?
Oui.
Ben oui, effectivement, ça va commencer à partir de lundi. Mais on va se revoir, Je vais être un peu moins souvent dans la Sexploratrice.
T'as jamais été dans... Oui, moins souvent dans le show de la Sexploratrice.
Ouais, ben c'est ça. On remarque, on sait pas si j'ai déjà été là ou non. C'est qui ça, Max? Mais ouais, fait qu'on va se voir un peu moins souvent. Ça m'attriste grandement, mais bon, j'ai d'autres...
D'autres projets.
J'ai d'autres projets, d'autres fonctions ici maintenant dans l'équipe du midi avec JC. Équipe que je suis très content de joindre sur l'heure du midi. Une équipe formidable avec laquelle je vais beaucoup apprendre. Mais écoute, on va se revoir. Hein?
Ben oui, mais là, j'espère. Puis tu vas revenir faire ton tour.
Mais là, tu dis pas qu'il nous remplace.
Ben oui, c'est officiel, hein? C'est pas mal officiel.
Ben ouais.
C'est notre cher, puis pour vrai, on a quand même entendu parler rapidement, Nick Cloutier.
Ça va être le fun.
Notre cher Nick Cloutier qui va se partager le micro avec toi. Je pense que ça va être... je pense que ça va être le fun.
Ça va vraiment être cool. Ben oui, je pense que Nick va être un bel ajout à l'équipe. Puis je vais te dire une affaire. Ça a vraiment été, tu sais, je vais revenir là, de façon ponctuelle, mais les derniers mois ont vraiment été... Ça a vraiment été une belle découverte de travailler avec toi à tous les jours, non seulement au niveau de l'émission, au niveau des sujets, des chroniqueurs qu'on a eus, des auditeurs qui nous ont fait une belle place le soir, je pense, mais au niveau de l'amitié aussi qu'on a créée.
Oui, vraiment, nos petites jasettes d'après-show, là, ça va me manquer aussi.
Exact, te côtoyer 4 soirs par semaine à 10 heures le soir, beaucoup de moments de folie.
Vraiment?
Beaucoup de moments d'absurdité, beaucoup de beaux moments, beaucoup de moments touchants, de discussions profondes. Puis s'il y a bien quelque chose pour laquelle je vais être éternellement reconnaissant, c'est ça, c'est cette amitié-là qui s'est développée. Puis j'espère que ça va perdurer dans le temps.
Là, c'est pas fini, là. Il y a plein d'explorations qu'on veut faire. Là.
On parle comme si quelqu'un était mort.
Mais non!
Jesus Christ!
Non, tu vas nous faire des tests approuvés. Là, tu vas aller visiter le magnifique Club L. Moi, je vais te faire découvrir ça.
Ouais, ben c'est ça. Attends, je vais revenir faire des chroniques de tester approuvés de Joie de Planète X.
Aussi.
OK.
Ben oui, là.
Mais là, c'est pas des affaires qu'il va falloir que je me rende dans...
Peut-être.
Moi?
Ben là.
Mais OK, je vais me sacrifier pour la science.
Là.
En tout cas, on en reparlera en
tout cas. Tu pas. D'ailleurs, as-tu pratiqué le Halloween? Ou connais-tu une amie? Connais-tu un ami qui l'a pratiqué?
Ça, c'est bien, mal. Je compte une histoire avant de rentrer en onde, puis elle me dit, tu veux-tu en parler? Je fais, mais pas certain. Puis elle me lance dessus. Fait que, ouais, je connais une amie.
Une amie?
Qui a pratiqué ça.
Ben elle a trippé, hein?
Elle a trippé. elle a trippé. Ouais. Parce que ce qui est le fun avec le shallow wing, c'est de la pénétration peu profonde.
Voilà.
Fait que ça stimule le point G.
Oui.
Ça le fait grossir. Et après ça, l'orgasme arrive plus rapidement.
Voilà. Et ça stimule pas que le point G. Ça stimule l'espèce de Y inversé là, du clitoris, la partie interne du clitoris. C'est ce que ça stimule énormément en plus du point G. Donc, l'orgasme est vraiment là intense.
Puissant.
Et lorsque madame a l'orgasme et toi, t'arrives ensuite en pénétration profonde, là, oublie ça, là, c'est...
Mais quand j'ai vu le visage de mon ami...
de son ami, ton ami, on l'a nommé.
Je me suis dit, waouh, ça marche.
Madame était contente.
Non, mais toutes les personnes... Puis je sais qu'il y a des hommes qui comprennent pas, tu sais, qui sont plus, disons, sexuels phallocentrés, qui ne jurent que par la pénétration complète et profonde. Ils n'arrivent pas à comprendre le but du slow sex ou du shallowing, de la pénétration peu profonde. Mais je vous le dis, là, c'est quelque chose à essayer, là. mon partenaire aussi, là, il trippe vraiment. Là. Tout le monde, en fait, qui l'a essayé, trippe. Je ne connais personne. Et d'ailleurs, on a, un peu plus tard, là, on va faire la boîte à mail, justement, avec notre cher invité que je n'ai pas encore présenté. Mais il y a quelqu'un qui demandait via la boîte à mail, c'est quoi les différents types d'orgasmes? Peux-tu décrire aux hommes, c'est quoi les différents types d'orgasmes qu'on peut retrouver chez la femme? Et ça, on va le faire jeudi.
Tu vas tout nous décrire ça.
Oui.
Mais tu vas rien faire live.
Ben non.
OK, ben je sais pas, t'es une exploratrice.
Hein. Non, c'est ça, j'explore en dehors des ondes quand même.
Ça aurait pu être le premier orgasme.
On explore en dehors, come on Max.
Ouais, OK, c'est bon.
Donc voilà, alors ce jeudi pour notre dernière ensemble, en formule quotidienne à tout le moins, ce sera une soirée Mel et Max et on va nous faire un sexe autour du monde. Je vais vous faire je vais vous présenter finalement les différentes formes de stimulation et d'orgasme. Et ce soir, chers auditeurs et auditrices, on est en live sur TikTok, la sexploratrice. Notre invité est en live également. On a avec nous Dr. Paul Simard, psychologue.
Bonsoir, Paul.
Un applaudissement.
Oui, comment ça va?
Okay, merci.
Le grand Paul.
Merci de m'accueillir.
Paul qu'on adore. Paul que tout le monde ici à la station adore, veut avoir. Et c'est génial. Merci.
De l'amour partout.
Merci d'être notre collaborateur officiel hebdomadaire. Toutes les semaines, on a la chance de travailler avec toi.
J'ai des messages textes de mon amie, là, elle n'est pas contente.
Oh non, elle n'est pas contente pour rien. Oh non.
On va régler ça après chaud.
Oh non, mais moi, je vais y parler. C'est ma faute. Tout est ma faute.
Ben
j'ai, j'ai des trucs de psychologie d'amis. Là,
ouais. Il va falloir que tu me montres comment me réconcilier.
On pourrait le donner direct d'emblée. Hein. C'est qu'il faut voir le problème devant soi et non pas le problème entre soi.
Et à l'intérieur de soi, je mets.
Ben, c'est ça. Mmh.
Ouais. À l'intérieur
surtout
de soi.
Pas trop loin à l'intérieur, okay. C'est ça.
Je suis sur le bord. Non, mais ça, moi, je trouve ça le fun, là, des petits témoignages comme ça.
Ouais.
Ça donne envie d'essayer.
Tester et approuver.
Tester et approuver, les gens. 88-670-9098. Écrivez-nous donc pour nous dire si vous avez essayé le Shallowing et si vous avez aimé le Shallowing. 88-670-9098. Et si vous avez des questions également pour notre invité ce soir, Dr. Paul Simard, psychologue qui est avec nous. Ce sera un plaisir de vous lire en onde. On ne lit pas les commentaires via le live TikTok. Ce n'est que pour un soutien visuel.
Exact.
Docteur Simard, avant d'aller avec la boîte à mail ce soir, les questions qu'on a reçues de nos auditeurs et auditrices, moi, je veux savoir, récemment, en fait, Véro Lasexo, qui est une de nos collaboratrices ici, a avoué avoir quitté l'Ordre. Elle a avoué avoir quitté l'Ordre. Ben, elle a annoncé, en fait, avoir quitté l'Ordre des professionnels. On a également notre cher Yvon Dallaire, qui était collaborateur ici, mon ami qui est décédé, mais qui avait aussi quitté l'Ordre. Pourquoi est-ce que les gens quittent de plus en plus l'ordre professionnel comme ça? Est-ce que c'est parce que vous êtes vraiment limité dans ce que vous pouvez faire publiquement avec l'avènement des réseaux sociaux et tout? J'imagine qu'il y a une certaine limite qui est difficile à respecter.
C'est bon la piste des réseaux sociaux que tu as. Parce que je vais juste vous mettre en contexte, OK?
Oui.
La création du Code des professions, c'est ce qui encadre toutes les ordres professionnels. Ça, c'était en 1974. Puis le Code de déontologie de l'Ordre des psychologues du Québec, c'est 1994. Est-ce que l'Internet était très avancé en 1994?
Oh, que non.
Plus ou moins.
Non. Donc, ça vous donne un aperçu à quel point il y a un
décalage. On
était à l'époque
de AOL.
C'est ça.
Quand tu te connectes.
C'est effectivement ça. Puis, il y a tellement de limitations que certaines personnes qui veulent développer leur côté entrepreneur font face à un dilemme là, entre les obligations de la profession qui vient avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de règlements, beaucoup de limites. Puis ils vont peut-être préférer s'affranchir de ces limites-là pour aller vers plus un volet marketing, entrepreneurial. Puis ça fait en sorte qu'ils n'auront peut-être plus, par contre, l'aura de confiance qui était attribuée au titre professionnel.
Ouais.
Parce que moi, j'ai
pensé... qu'aujourd'hui, il y a tellement de coachs de vie, des gens qui s'improvisent comme si comme ça, c'est difficile de se retrouver dans tout ça. On en a déjà parlé.
Ah oui.
Donc, en faisant partie de l'ordre, bien, ça nous assure, en fait, une certaine forme de crédibilité, vous avez quand même des trucs à respecter. Puis également le volet assurance, tu peux émettre des reçus d'assurance, chose que tu ne peux pas faire, j'imagine, lorsque tu ne fais pas partie de l'ordre.
Ce n'est pas tout à fait vrai parce que tu as juste à t'inscrire à une association de naturopathie et tu vas émettre des reçus pour assurance à des fins naturopathiques.
Okay.
Fait que là, le problème, c'est plus au niveau des couvertures. Comment ça se fait qu'il y ait des assurances qui remboursent des services associé avec des trucs non validés scientifiquement, ouais. non, qui reposent plus sur des croyances et des préférences.
Mm-hmm.
Fait que là, c'est là que c'est questionnable. Mais pour okay. la majorité des gens, les gens ne font même pas la différence. Mais c'est vrai que les professionnels jouissent d'une réputation, on pourrait dire, de confiance.
Oui.
Puis,
mais c'est quand même très, c'est vraiment très sévère. Si, par exemple, on voulait faire un voyage, on en a déjà parlé, faire un voyage avec nos célibataires et des ateliers de psychologie, tu ne pouvais même pas être sur le même resort que nous, je pense. Tu ne peux pas participer aux activités hors.
C'est, d'une certaine manière, oui, c'est ça. Ça pourrait arriver, mais moi, il faudrait que je fasse super attention.
Pour ne pas mélanger travail et
loisirs. Mettons qu'on s'en va à la piscine pendant un jour de repos, puis que là, la personne qui est assise à côté de moi me voit prendre un verre. Mm-hmm. Puis là, elle trouve que j'exagère sur le prenage de verre. Puis elle fait des commentaires sur la manière que j'ai de plonger dans l'eau. Est-ce que je vais avoir la même crédibilité pour intervenir sur le plan thérapeutique ensuite? Donc, puis, c'est la confusion des frontières.
Puis il y a également, lorsque vous faites, par exemple, vos vidéos sur les réseaux sociaux et tout, c'est super important, le background. Vous ne devez pas, en aucun cas, divulguer quoi que ce soit de votre vie personnelle.
Ben, c'est pas en aucun cas. C'est que ça ne doit pas créer de confusion. Il faut qu'il y ait une franche distinction entre l'aspect personnel et l'aspect professionnel. Mais pour humaniser les échanges, mais parfois, ça fait bien de donner un peu d'accès au volet personnel. Mais est où la ligne sur l'élément qui peut créer de la confusion? C'est là qu'il y a débat.
Ouais.
C'est pas toutes les autres professionnels qui interprètent la ligne à la même place non plus.
Moi, personnellement, je trouve ça le fun de voir un peu l'arrière du décor d'un psy qui se présente sur les réseaux sociaux.
Ben oui.
Je trouve que ça peut en dire quand même pas mal sur la personne, tu sais.
Oui.
Comment tes pères voient ça, que tu sois un psychologue qui soit très présent sur les réseaux sociaux?
Ben moi, j'en coach peut-être une cinquantaine là, de psychologues, sexologues, conseillers d'orientation, thérapeutes au Québec qui sont actifs sur les médias et dans le web.
Mais j'imagine qu'il y a encore une vieille garde qui se maintient.
Fait que d'une certaine manière, j'ai fait un peu un rôle d'initiateur là-dessus. J'ai même créé une formation pour mes collègues là, sur le sujet. Mais il y a comme une espèce de polarisation là-dessus. Ceux qui se disent le rôle du psychologue, c'est dans le cabinet privé. Puis d'autres qui disent, comme moi, ben je vais vous offrir à voir ce que j'enseignerai de toute façon en thérapie, mais il ne faudrait pas que ça crée de confusion. Ce n'est pas de la psychothérapie quand je prends la parole sur le web. C'est de l'éducation psychologique.
Ouais.
Puis là, il y a du monde que quand je fais des petites capsules éducatives sur le web, ils peuvent se virer de bord en disant, j'ai pas aimé ça ce qu'a dit le psychologue, puis ça va dans le sens inverse de ce que mon psychologue à moi me dit en privé. Ils font une plainte à l'ordre des psychologues. Puis là, l'ordre des psychologues me passe sous enquête ou interviennent pour me dire, quand vous dites telle affaire dans telle vidéo, quels sont vos fondements scientifiques? Quelles sont les limites de votre intervention? Pourquoi vous avez fait ça de telle manière? C'est très dur et laborieux. Fait que j'ai des collègues qui ne sont pas capables de supporter cette pression-là. Ils vont préférer des fois quitter l'ordre plutôt que d'être sous enquête.
Je trouvais ça super intéressant. Véro a vraiment bien expliqué chaque étape et tout. Donc, elle y a quand même réfléchi longtemps. Elle a même mis sur pause les projets radiophoniques parce que elle avait.
Oui, j'ai parlé avec elle d'ailleurs.
Oui.
Elle m'a donné la permission pour que je fasse une vidéo réaction sur ses stories parce qu'il y avait 8 minutes de commentaires là-dessus. Fait que j'ai enregistré pour pouvoir faire une vidéo éventuellement. Mais je pense que ça demande beaucoup de courage d'oser faire ça.
Ben oui, vraiment.
Elle va perdre plein de privilèges. Mais pas tant.
Mais, je pense qu'en termes de clientèle, elle n'en perdra pas tant.
Non, c'est ça. Elle était déjà bien présente.
Vraiment.
Puis c'est parce que les sexologues, ils ont des actes réservés, mais au niveau de l'évaluation des troubles sexuels. Fait qu'il n'y a rien qui les empêche de faire de l'accompagnement, de la relation d'aide, puis de ne plus porter le titre sexologue, mais quand même de faire de l'éducation sexuelle.
Voilà.
Est-ce que tu penses que parce que tu évolues beaucoup dans la caméra puis sur les réseaux sociaux, selon certaines personnes, ça pourrait enlever ou laisser présumer que ça enlève une certaine crédibilité au psychologue à part entière parce qu'on est habitué de voir le psychologue nulle part. On le voit pas nulle part, il est dans son cabinet puis il aide les gens de cette façon-là. Alors on est habitué sur les réseaux sociaux de voir beaucoup de coachs de vie qui font un peu le même genre de contenu que tu fais.
Et penses-tu
que penses-tu que ça procure un peu cet effet-là?
Oui, j'ai des collègues qui sont quand même assez traditionnalistes là-dessus, là, puis qui vont m'accuser ou m'écrire pour me dire que ça n'a pas de bon sens qu'un psychologue fasse ça. Puis là, on a des discussions.
C'est ce qu'elle recevait, Véro, aussi, comme commentaire. Elle trouvait ça lourd à gérer.
Ses collègues étaient très...
traditionnalistes.
Oui, c'est ça. comme si ça se faisait pas, qu'il fallait...
Mais c'est parce qu'à un moment donné, si tu veux renouveler ta clientèle, la clientèle est où? Elle est sur le web.
Oui, c'est ça.
Tu sais, je pense que c'est les psys vieux jeux ou les gens qui sont dans l'autre qui sont un peu plus vieux jeux.
Mais
peut-être,
on n'est pas vraiment formé non plus pour faire ça. C'est tellement nouveau qu'il y a un décalage entre la formation puis la réalité du terrain.
Exact.
Moi, c'est parce que je me suis formé en entrepreneuriat que je me suis dit comment je pourrais ouvrir les opportunités qui s'offrent à moi. Puis vu que j'étais nul à chier en français, parce que je suis dysorthographique, je me suis dit, il faut que j'exploite autrement mon désir d'expression. Fait que je me suis dit, moi, commencé à faire des vidéos. Donc, c'était une manière basée sur une lacune à la base.
Tu parles de dysorthographie. Mmh. Moi, j'ai réalisé ça tard dans la vie. Mon fils a été diagnostiqué très jeune. Dysorthographie, dyslexie, tout ça, c'est des choses qui font partie de moi aussi. Quand est-ce que tu as appris que tu étais dysorthographique et comment peux-tu expliquer la dysorthographie aux gens qui ne connaissent pas ça?
Ben, moi, je l'ai appris sur le tard par une amie qui faisait sa maîtrise en orthophonie. Puis là, j'y racontais mon histoire, comment j'ai toujours trouvé ça difficile, le français.
Puis de réexpliquer des choses, hein, des choses qu'on assimile, réexpliquer, c'est difficile.
Ben, moi, c'était principalement au niveau de l'orthographe, la syntaxe. Okay. Je fais des fautes de français en parlant. Des fois, j'accorde mal mes verbes au pluriel. C'est comme si... Puis à l'écrit, c'est encore pire. Puis à l'université, j'ai un professeur qui m'avait dit « Je comprends pas pourquoi tu es admis à l'université. Toi, t'écris comme tu parles. On dirait que tu es encore à l'école primaire quand t'écris. » J'avais trouvé ça tellement... Ça m'avait fait mal au bout. Hein. Mais c'était pas la première fois que je l'entendais, cette phrase-là. Puis là, j'ai pu, grâce à différents amis qui étaient en orthophonie, qui m'ont dit « Attends, dis-moi, telle affaire, comment ça se passait au primaire? » Ben, des fois, j'avais des années d'alternance où ça allait super bien, d'autres années... J'ai toujours eu des lacunes en français. Le reste pouvait péter des scores, mais en français, ça a toujours... J'ai jamais compris les participes passés, mais comment ça marche. Puis elle a dit, ben, c'est peut-être parce que tu es une condition de dysorthographie. Ton cerveau, il n'intègre pas les règles de syntaxe.
Mais ça se peut-tu que dans notre temps, on ne diagnostiquait pas ça?
Ben, c'est...
Que je connais personne de notre époque. Mm-hmm. On n'est pas tant...
Il y a bien des affaires qui ne se diagnostiquaient pas à l'époque,
qui
se font aujourd'hui.
Exact. C'est fou.
Ben, c'est la culture, on va dire, de la connaissance médicale ou des sciences sociales qui est en train d'intégrer l'aspect populaire. Progressivement, c'est en train là, de faire son petit chemin.
Oui.
Au moins, maintenant, c'est plus tabou comme c'était des gens qui souffrent de dépression, parce qu'il y a des gens qui, c'est tellement tabou, qui simulaient la santé jusqu'à temps qu'ils s'enlèvent la vie, malheureusement.
Complètement fou, oui. Puis aujourd'hui, bien heureusement, grâce aux réseaux sociaux, justement, les gens peuvent évaluer d'autres avenues que la dépression directement, comme les problèmes, les débalancements d'hormones, l'andropause, la ménopause. Maintenant, on a l'information pour pouvoir justement se dire « Hey, c'est peut-être ça, et pas une dépression finalement, c'est peut-être juste un débalancement d'hormones que j'ai. »
Exact, c'est des portraits cliniques complexes, puis c'est là où la formation requise pour être un professionnel, membre d'un ordre, c'est là où ça demande des très hauts niveaux de standards.
Oui. Toute personne qui va consulter un médecin pour dépression, est-ce que cette personne-là ne devrait pas être vue d'abord par un psy?
Ça, c'est vraiment une question complexe qui est débattue souvent entre professionnels. Puis dans notre société, le médecin il est vu un peu comme la porte tournante là, du dépistage, alors qu'il aurait peut-être besoin, en effet, d'avoir d'autres mécanismes. Puis ils essayent toutes sortes de choses dans le réseau public de la santé. Hein.
Ben, c'est pas toujours, ils sont pressés, ils ont quoi, 11 minutes en moyenne pour répondre aux patients.
C'est ça.
Ça n'a pas de bon sens, puis ils sont vite sa gâchette, ils sont vite sa pilule. Là. Ah, dépression!
Ben, c'est pour ça que les médecins ils ont parfois de l'assistance de des infirmières cliniciens ou des infirmiers cliniciens qui vont faire un dépistage, un screening. Même chose pour le travail social, qui vont parfois faire un premier tri dans l'intervention, puis s'ils peuvent... soutenir les individus ou leur offrir de l'encadrement, un suivi clinique, mais qui n'est pas de la psychothérapie, ben, peut-être que là, ils ne référeront pas systématiquement à un psychologue.
Ouais,
la montée en puissance des coachs de vie puis le fait justement que ce soit difficile d'avoir accès à un psychologue, est-ce que ça t'inquiète? Parce que c'est plus facile aujourd'hui, j'ai l'impression, d'avoir accès à quelqu'un qui est issu de la médecine alternative, qui n'a pas de diplôme en psychologie en tant que tel, là, qui patente des affaires à gauche et à droite puis qui essaie de t'aider. Ça t'inquiète pas?
Non, parce que je trouve que l'intérêt des gens envers aller chercher de l'aide, c'est quelque chose qui va se construire dans le temps. Juste le fait d'essayer d'aller chercher de l'aide à un endroit puis d'éprouver de l'insatisfaction ou de dire « Non, c'est pas vraiment ça que je cherche. » Ben, c'est déjà quelque chose, une manière de construire sa responsabilité sur sa santé. Puis j'ai l'impression que si les gens se tournent vers des coachs de vie, c'est probablement aussi parce que il n'y a pas suffisamment de professionnels où les conditions ne sont pas propices à remplir toutes les demandes.
Ben c'est ça. Il y a des listes d'attente de mois et des mois pour voir.
On a besoin de consulter, c'est maintenant, c'est pas dans 6 mois. Ben, c'est ça qui est difficile.
Il y a pas un danger qui est relié à ça, d'aller consulter des gens qui sont pas professionnels, qui pourraient nous induire en erreur, nous amener à peut-être avoir des mauvais schémas de pensée?
C'est vrai, mais moi, je crois fondamentalement à la bonté des êtres humains. Puis je pense pas qu'une personne qui va vers aider les autres est fondamentalement mauvaise. Mais oui, il peut avoir des erreurs. Il peut avoir toutes sortes de charlataneries. Il peut avoir des escrocs qui se faufilent là-dedans.
Ces gens-là peuvent pas non plus prescrire quelque chose. T'sais. Ils peuvent accompagner la personne.
Ben, s'ils s'essayent, ils vont se faire ramasser par le Collège des médecins.
Voilà.
Mais des fois, il suffit d'implanter une idée. Ça peut devenir un danger pour la personne.
Ouais.
Tout simplement. Ça peut être aussi vite et simple que ça.
Dans ce cas-là, si on continue dans cette optique-là, on pourrait dire que boire de l'eau, c'est dangereux de se noyer.
Ouais, mais ben là, on extrapole. Mais oui.
Ben, c'est la même chose. Fait que aller chercher de l'aide, oui, c'est quelque chose qui est fragilisant en lui-même. Mais dans la réalité...
Surtout que t'es vulnérable. C'est ça. Rendu là.
Dans la réalité, je crois que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont besoin de soutien, conseil, validation, présence, puis pas forcément d'une psychothérapie. C'est pas tout le monde qui souffre d'un trouble, d'une perturbation majeure qui a besoin d'un plan de traitement. Je pense que la grande, grande majorité des gens ont besoin de présence, de chaleur humaine et de validation.
Doc, on va déjà aller à la pause, puisqu'on va tout de suite après la pause aller avec les questions du public via la boîte à mail. Je vous invite, là, je vois les commentaires entrer dans le live TikTok. Je ne peux pas vous lire. 418-670-9098. C'est via ce numéro-là qu'on peut vous lire, que vous pouvez nous appeler. Et on va lire au hasard des questions reçues via la boîte à mail tout de suite après la pause. Vous êtes à l'écoute de la Sexploratrice. On est ce soir en compagnie de Dr. Paul Simard, psychologue, toujours tellement intéressant avec lui. Donc, gênez-vous pas pour poser vos questions. 418-670-9098. La Sexploratrice sur les ondes de choix. 98h Radio X.
La Sex.
La Sexploratrice.
Exploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.
De retour avec la Sexploratrice. Vous êtes sur les ondes de choix 98h Radio X. Notre invité ce soir, Dr. Paul Simard, psychologue, avec qui on va aller fouiller dans les questions reçues via la boîte à mail que vous pouvez retrouver via lasexploratrice.com ou encore lasexploratrice à commercial radiox.com. On va chacun piger une question.
OK.
Et on va y répondre. Mais juste avant, je dois vous parler de l'encan Radio X.
Parle-nous.
Jusqu'au 14 avril, OK? Si vous voulez épargner, trouver des vrais deals et bien visiter le tout nouvel Encan Radio X en cliquant sur l'onglet Encan au radiox.com. Il y a des tonnes d'items comme du karting, des colliers, une chaîne en or, des jeux gonflables, location d'un campeur autonome, haut de gamme, des séjours à l'hôtel, forfait de restaurant, airsoft pour 30 personnes. Hey, c'est hot ça! 30 personnes, c'est pour une fête. C'est le fun.
Une grosse fête.
C'est une grosse fête. Journée de pêche, four à pizza, ensemble ton deux, certificat porcelain d'asphalte, radio, Bluetooth et bien plus. La mise de départ est de seulement 25 %. Donc, imaginez le payer une fraction du prix pour un ensemble tondeuse à gazon Milwaukee d'une valeur de 1498 $, gracieuseté de Fixatech. Merci, merci, merci. L'encan se termine le 14 avril, donc si vous voulez économiser, tardez pas, c'est maintenant que vous devez vous rendre sur l'onglet Encan. Site radiox.com et économisez gros grâce à l'encan Radio X en un seul clic. L'encan Radio X. On aime ça, on aime ça, on aime ça.
Quelle voix radiophonique.
C'est l'enfer. Hein?
Donc, on a une question d'un auditeur qui entre sur le live. J'ai presque envie de le prendre. On nomme-tu? Tu nous diras si tu veux qu'on te nomme. Bref, j'ai une question qui est entrée. On pourrait commencer par lui. Comment se mettre sous le même diapason avec sa conjointe sans avoir l'air de se répéter? Moi, chaque jour, j'essaie de me dire que c'est peut-être le dernier jour de ma vie et c'est pas grave sur des détails. Elle, non. Ça rejoint en fait une des questions justement qu'on a dans la boîte à mail par rapport à la rumination. Mais comment est-ce qu'on peut arriver justement à... Parce que c'est vrai qu'il y a des personnalités qui vont toujours voir le positif des choses et d'autres un peu plus négatifs.
Ouais, ouais.
Comment est-ce qu'on peut arriver à trouver...
Ben, un diapason, ça, c'est quand on cogne dessus puis ça fait...
Ping.
Mais tu sais qu'à un moment donné, la vibration arrête.
Ouais.
Fait que dans le fond, la personne qui demande comment faire pour ne plus se répéter, pour ne plus cogner sur le diapason, ça serait d'apprendre à laisser mourir le son. Donc, Donc là, dans le fond, je suis une confrontation pour vous dire que il est normal de répéter pour ressentir la vibration dans le couple. N'ayez pas peur de répéter à nouveau des expériences. Redites à l'autre comment vous aimez. Il y a une différence entre harceler et partager. Des fois, c'est le temps de retenir l'information. C'est pas tout le temps de dire à l'autre là, vos envies, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que ça. Mais ce serait important de le faire aussi un moment donné. Là.
Mm-hmm.
Donc, n'hésitez pas à répéter comment vous aimez.
Très intéressant. Merci. C'était le témoignage d'un auditeur sur le live.
Super.
Donc, première question reçue via la boîte à mail. Pourquoi les femmes que j'aime ne m'aiment pas?
Hey.
Ça fesse?
Grosse question.
Change de magasin de linge.
Veux-tu commencer ou c'est moi qui...
Ben, en fait, pourquoi les femmes que j'aime ne m'aiment pas?
Premièrement, change de parfum.
Quels sont tes critères? Ah. Et est-ce que vraiment, ce que tu cherches, tu es en mesure toi-même de l'offrir? Moi, je dis souvent ça aux gens. Hein?
Bon point. La réciprocité.
La réciprocité. Ouais. Et ce que tu souhaites recevoir, es-tu vraiment... Tu sais, je propose aux gens toujours de faire l'exercice d'écrire leurs critères sur une liste et de relire la liste jusqu'à ce qu'ils deviennent cette personne-là.
Mais ça se peut-tu aussi, pourquoi les femmes que j'aime ne m'aiment pas? Ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui aime rapidement les
aussi,
gens qu'il rencontre.
Qui
puis ça, ça peut être, exact, ça peut être traumatisant au début. Là, tu vois quelqu'un arriver dans le décor, t'es là, oh, putain, ça fait trois dates, puis il est déjà en amour avec moi. Là.
Moi, je pense que c'est direct dans la dynamique du désir. Parce qu'une personne qui désire, c'est quelque chose qu'elle elle veut ce qu'elle n'a pas. C'est typique du désir, ça. Parce que dès que je possède l'objet de mon désir, ben, je le désire plus, je l'ai. Fait que pourquoi les femmes que j'aime ne m'aiment pas? C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose, une espèce de désir de remplir une fonction inaccessible, une idéalisation. Fait que moi, j'inviterais les personnes qui ont ce genre de questions-là à essayer de se connecter là, avec est-ce que vous avez la compétence pour transmettre ce besoin affectif que vous avez? Pas votre désir, le besoin réel. Qu'est-ce que vous avez besoin dans une relation? De l'excitation ou du calme?
Tellement.
Puis là, si vous voulez d'excitation, ben apprenez à communiquer ça, devenez habile. Puis là, peut-être que les personnes que vous aimez vont vous aimer en retour. Mais essayez de chercher dans la similitude, la réciprocité, ça se bâtit beaucoup dans ce qui est similaire.
Et dans sa façon de communiquer. Parce qu'effectivement, si tu communiques ton manque d'amour, puis que tu es justement dans le manque à côté, puis que tu mendies, là, ça, c'est un off, là.
Ouais. Ça, c'est comme la position du vendeur d'amour. C'est comme si une personne, là, elle se présente avec son petit cœur, elle dit « Aimez-moi, y a-t-il quelqu'un qui veut m'aimer? Aimez-moi, achetez mon amour, j'ai de l'amour, s'il vous plaît, achetez mon amour. » Ben, t'sais, tout le monde regarde ça un peu avec hauteur, puis se dit « Ouais, si personne n'achète, c'est sûrement parce que ça n'a pas beaucoup de valeur, cet amour-là. » Puis là, ça l'accentue, le désir de ne pas le prendre. Alors que si vous prenez l'inverse, une posture de vendeur, c'est de bien connaître sa valeur personnelle, puis de dire « Moi, je ne vais pas offrir mon amour à n'importe qui. » L'autre va devoir m'accoter dans la réciprocité de la valeur qu'on va construire ensemble. Donc, viser à construire une similitude, puis peut-être que ça va commencer à réguler quelque chose.
Très intéressant. Merci pour votre réponse, Dr. Paul Simard, psychologue.
J'adore ça.
C'est au tour de Maxou de lire la prochaine question.
Bon, alors, je viens d'en piger une. Est-ce possible d'avoir trop aimé et de ne plus être capable d'aimer?
Hey, ça, là, est-ce que vous l'avez déjà vécu?
Oui.
Ouais, avoir le sentiment intérieur de...
C'est fini!
Ben, tu sais, la petite étincelle éteinte, puis plus jamais je vais être capable d'aimer. Moi, une semaine avant d'être tombée amoureuse complètement de mon partenaire actuel, je disais à tout le monde à quel point...
C'est fini,
j'étais
plus jamais!
Seule, puis à l'intérieur de moi, je me sentais éteinte, puis je me disais, plus jamais je vais aimer. Moi,
ma théorie là-dessus, c'est... Moi, j'ai déjà ressenti ça aussi, mais j'ai l'impression qu'on peut aimer plusieurs fois dans une vie, mais ce sera jamais des amours identiques. On va toujours aimer d'une façon différente. Peut-être que tu peux confirmer ou infirmer ma théorie. Est-ce que tu aimes, puis oui, par exemple, de la même façon que tu as aimé tes anciens partenaires?
Non, c'est vraiment différent. Puis ben, aujourd'hui, lui-même me dit la même chose. Ouais. Que c'était la première fois. C'est la première fois qu'on vit quelque chose comme ça.
Chaque amour est unique un peu.
Ouais.
Selon ce que je pense. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Doc?
Oui, ben moi, je suis particulièrement marqué dans la question par l'enjeu là, de trop aimer et plus être capable.
Mmh.
J'aimerais soutenir la personne qui pose la question avec un peu d'espoir là, pour lui dire que quand on apprend quelque chose de nos expériences, c'est normal de changer la trajectoire. Fait que si vous avez dans votre bagage d'expérience là, des blessures à répétition que vous avez aimées paf, blessure. Que vous avez aimé encore, paf, blessure. Bien, ça se peut que là, vous vous dites, coudonc, l'amour, c'est-tu juste une blessure perpétuelle? Puis là, plus avoir l'élan intérieur, la motivation pour aimer. Oui, c'est ça. Ça, on appellerait ça, je pense, un apprentissage affectif. Mais rassurez-vous, c'est pas pour toujours. Parce que les émotions, les sentiments ne peuvent pas toujours rester dans le même état. Ça change, ça fluctue, c'est comme
ça
des
évolue.
Vagues.
Ça évolue.
Oui. Donc, peut-être qu'il faut juste accepter que vous êtes dans une phase où, ces temps-ci, votre corps, il essaye de vous dire, là, ce n'est pas le bon moment de répéter l'amour. Ces temps-ci, ce n'est pas le bon moment de répéter l'amour. Puis, éventuellement, un peu comme tu as décrit tout à l'heure...
Ça va se présenter sans s'en attendre.
Surprise!
Ouais.
C'est dur.
C'est cliché de dire ça, là, mais ça va se présenter quand tu vas t'y en attendre le moins.
Ouais.
C'est vrai, je sais pas toi, est-ce que c'est un peu ça qui est arrivé avec ton amoureuse actuelle? Ça fait longtemps là, que t'es en couple quand même.
Ouais, ça fait tellement longtemps que je me souviens plus trop comment ça s'est fait là, à l'époque. La même vidéo au cinéma, on était allé au secondaire ensemble, mais je me souviens plus trop.
OK.
Mais je pense que comme Paul disait, tu sais, quand t'es dans ce moment-là où il y a rien qui se passe, il n'y a rien de pire que ce moment-là parce que le moment présent est long, interminable.
Oui,
t'as comme du mal à te repositionner dans ce que tu ressentais avant parce que t'es trop dans la blessure, justement.
Oui, puis des gens qui vont beaucoup dans l'installation du confort solitaire vont composer un autre genre de risque.
Ouais.
C'est le risque de ne plus savoir s'entremêler avec l'autre quand ils vont vouloir être en relation à nouveau.
C'est dangereux quand t'as appris à être bien tout seul, que t'as ta petite routine... puis que t'es bien comblé côté social et tout, là.
Ben oui.
C'est dur de laisser entrer quelqu'un dans ta vie puis de dire, « Hey, je vais-tu vraiment laisser quelqu'un venir déranger mon petit bonheur actuel? »
Ouais. Puis ça revient à la théorie principale de Schopenhauer là, qui disait que tout est satisfaction et négatif. Autrement dit, puis entre les deux, c'est de l'ennui. Puis quand t'es dans l'ennui, c'est ça qui est le plus dur à vivre.
Oui.
Ouais.
C'est vrai.
Effectivement. Fait qu'il faut apprendre ce concept-là d'ennui, là. C'est un concept formidable.
Oui.
Ça permet de découvrir plein de trucs. Les enfants qui ne savent pas s'ennuyer, là, qui sont toujours stimulés d'une action à l'autre, n'auront pas la capacité d'identifier là, dans le vrai besoin qu'ils portent. Parce que oui, ils vont avancer, ils vont faire plein de choses, là, ils vont avoir un horaire complètement rempli. Mais est-ce que c'est par là qu'ils avaient besoin d'aller? T'sais, la suractivation, c'est exactement ça.
Puis est-ce que ça se pourrait aussi qu'on a tendance à multiplier des rencontres des relations non satisfaisantes qui vont venir nous... En fait, on reste dans le mode toxique parce que, on en a déjà parlé dans le fond, parce que c'est une zone connue qui n'est pas confortable, mais c'est connu versus, comme tu disais, est-ce que tu préfères la stimulation puis le up and down ou tu préfères la...
Ben, s'il y a un pattern, c'est qu'il n'y a pas eu encore d'apprentissage. Fait que les gens vont répéter jusqu'à temps qu'ils tirent l'apprentissage. Donc, c'est qui la personne toxique alors s'il y a... un
si
pattern toxique. C'est la personne au centre de ce pattern-là qui doit peut-être réaliser que je porte en moi des portes ouvertes à la toxicité. Donc, c'est-tu de la faute à l'autre s'il s'engouffre dans cette porte-là ou si c'est moi qui devrais apprendre à protéger mon estime en fermant les portes de ma bulle? Là,
voilà. Retourne le miroir vers toi, ma belle, ou mon beau. Si tu multiplies les rencontres non satisfaisantes et toxiques, mais ça se pourrait que ce soit toi qui laisse les gens te dépasser tes limites, finalement. Tu dépasses tes limites.
Exact.
Tu acceptes ça, puis après ça, tu es dans une relation toxique, mais
écoute-toi.
Tes limites en partant.
Écoute-toi.
Tu quittes la relation, là. Ben oui.
Voilà.
Es-tu prête à la prochaine question?
Let's go.
Alors, j'ai pigé la question. À quel moment on met une limite dans l'utilisation des pratiques sexuelles atypiques?
Oh! Ben, limite sexuelle atypique ou même n'importe quelle, dans le fond.
Mais y a-t-il un moment en particulier où ça
atypique.
Arrive?
C'est quoi ça, des pratiques sexuelles atypiques?
Ben, c'est quoi, des pratiques sexuelles atypiques?
Mais c'est à toi de répondre, ça, mais...
Mais non, mais ben, moi,
ça, je
considère... En fait, je considère la sexualité vanille comme étant faire l'amour de façon...
C'est parce que c'est tellement relatif.
Ben oui, parce que pour une personne, être vanille, ça peut être ça, ça, ça. Puis pour une autre personne...
C'est ça.
Être kinky, ça peut être juste de se faire tirer les cheveux, tu sais.
C'est ça, le doggy style, ça peut être atypique pour quelqu'un.
Oui, exact.
Puis pour quelqu'un d'autre, c'est tout à fait banal.
Ouais.
Ben oui. Moi, je pense que je le mettrais un peu comme un continuum, au moins une gradation. Là. On pourrait dire que pas besoin de mettre de limites si ça vous motive. Au contraire, on va ouvrir les portes là, si ça vous motive. Si ça vous stimule. Puis si c'est tolérable, ben, pourquoi pas l'essayer? Après ça... Si ça commence à vous faire mal ou à vous écœurer ou à vous mettre en danger ou que c'est carrément en train de vous détruire, ben j'espère que c'est là que vous allez comprendre qu'il aurait fallu la mettre, la limite. Donc, soyez à l'écoute.
Pour la faire avant.
Oui, c'est ça. Mais les gens n'écoutent pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ouais. Fait qu'ils n'arrivent pas à mettre la limite parce qu'ils ne connaissent pas la limite.
Mais moi, ça m'a pris du temps à aimer le fromage.
Ouais.
Tu comprends? C'est-tu ce que je veux dire? Au début, je mangeais du fromage, puis j'étais pas certain que j'aimais ça.
C'est vrai?
Que j'aimais ça, mais ouais. À un moment donné, plus j'en mangeais, plus je me suis habitué au goût, ouais. Plus c'était meilleur.
Combien de doigts, le fromage?
De doigts, le fromage?
Tu le prends comme ça? Je comprends, c'est sûr. Parce qu'il faut l'essayer pour le savoir. Parfait.
Non, mais exactement, ça se peut-tu que quelqu'un qui trouve quelque chose d'atypique au début, plus il fait, plus il aime ça, même si ça rentre en conflit avec ce qu'il aime au fond?
Oui, il y a des gens qui vont utiliser les pratiques atypiques de type kinky.
Mm-hmm.
Tu ris encore le
fromage. J'aime c'est kinky.
C'est ça, des pratiques atypiques pour pouvoir canaliser une autre forme de souffrance ou une forme de désorganisation intérieure. Ils structurent de manière atypique quelque chose et ça leur permet d'être en équilibre psychologique. J'ai une amie qui, elle pratique de style BDSM, de jeu de rôle avec son conjoint.
Des jeux de rôle ou de rôle?
Des jeux de rôle, de soumission, de domination BDSM. Puis cet ami-là, même si son conjoint est dans un autre pays...
Je pense que je sais de qui tu parles.
Ben, ils ont des discussions web dans lesquelles elle dit, gentil, ben lui, il dit, mets-toi de telle position, fais telle affaire, puis tout ça. Puis elle soumet, elle le fait. Puis ça lui permet de calmer quelque chose à l'intérieur d'elle. Pour certaines personnes, vont dire, voyons, je vais pas commencer à faire ça. Là, moi, je me sentirais humilié. Jamais je ferais ça.
Oui, c'est
alors
vrai.
Alors que pour certaines autres personnes, ça va structurer quelque chose qui était désorganisé avant,
oui.
À l'intérieur de soi.
Mais il y a des gens qui pratiquent le BDSM pour le volet vraiment relaxation.
Ouais,
même chose
ça.
Pour le shibari. C'est pas nécessairement lié non plus directement à la sexualité. Il y a comme un volet
exact.
Bien-être, finalement, avant. Si tu as envie d'essayer des trucs, en fait, ça vaut la peine d'en parler ou de,
oui.
Tu sais, de partager ses fantasmes ou des envies, tout ça, là, c'est important d'en parler.
C'est sûr que si t'arrives en déguisant clown dans la chambre à coucher et t'en parles pas à personne, ça se peut que ta blonde pogne un deux minutes.
Mais j'ai un ami qui, lui, avait trois soumises, un dominant, finalement, un homme qui a trois soumises. Et chacune d'elles avait ses propres limites. Il y en a une d'entre elles qui, pour elle, c'est du 24-7 et elle le vouvoie, là.
Ah oui.
Moi, je suis comme... Personnellement, je ne sais pas vous autres, mais rendu là, je trouve que c'est de la dépersonnalisation.
C'est
de 24 heures sur 24.
Est-ce qu'il n'était pas plutôt dans une dynamique de maître et esclave?
Oui,
c'est ça.
Oui, exact, c'est ça. C'était
c'est
un
plus
dominant
juste la soumission dominante. C'est rendu un maître et ça, plus que soumise même. Moi, j'appelle ça quasiment esclave.
Mais elle n'est pas 24 heures sur 24 avec.
Ah oui, s'il l'appelle...
Non, mais pas 24 heures sur 24, mais à partir du moment où ils sont en contact...
C'est ça.
Excepté dans les endroits publics, où là, ils vont vraiment agir normalement. D'ailleurs, il est supposé de participer à l'émission. Là, j'ai plein de questions pour lui. Parce que il y a d'autres... ça, c'est sa soumise principale. Et les autres, c'est plus des actions shibari, BDSM, des trucs comme ça, sans sexualité nécessairement. Mais
excellent livre sur les pratiques BDSM ou atypiques, là, qui a été écrit. C'est comme la suite du mémoire de maîtrise d'une sexologue à Montréal qui s'appelle BDSM, les règles du jeu. Elle a fait une transposition de sa recherche anthropologique, là, c'est quasiment sur des applications de pratiques BDSM. Elle a fait un inventaire complet pour décrire ce genre de pratiques-là, pour ouvrir à la connaissance une sous-culture qui est autrement très cachée.
Oui.
Puis c'est particulier, ça, le fait de se familiariser avec une culture, que ce soit une culture linguistique, une culture nationale ou une culture de pratique sexuelle. Ça, c'est comme si il faut être capable de suspendre ses a priori et puis dire, ah tiens, quelque chose d'étrange. Est-ce que je pourrais pas apprendre quelque chose là-dedans ou c'est carrément non? Donc les gens, respectez-vous. Là. C'est pas une invitation à ce que vous fassiez du BDSM. Là.
Non, absolument pas. Puis c'est drôle, tu parles de culture, mais oui, tu sais, il y a des positions. Là. BDSM, il y a 10 positions. C'est vraiment fascinant. C'est un univers fascinant. Il y a toute une communauté, comme la communauté libertine. Il y a une communauté BDSM. Tu as des applications pour ça. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un univers fascinant, vraiment.
Ben oui,
c'est important de mettre vos
limites. Quand je me suis mis à faire des podcasts, des émissions de radio sur le polyamour, les couples ouverts, j'ai été connu tout de suite dans ces communautés-là. Puis j'ai eu un raz-de-marée de références.
Oui.
Déjà, parce que vu que ça fait partie d'une sous-culture spécifique.
Voilà.
Quand les gens se sentent compris là-dedans, ils réfèrent beaucoup.
Oui.
Mais c'est intéressant, vraiment, d'entendre leur discours. Puis je pense que ça l'est tout autant pour eux de ne pas se sentir jugés par des gens qui sont considérés moldus, c'est le terme,
oui.
qui sont outsiders, puis qui ne jugent pas. Parce que la plupart des gens, quand ils sont confrontés à ça, ils jugent rapidement. C'est bien rare là, qu'on est confronté à des gens qui essaient de comprendre avec ouverture et qui accueillent la différence c'est plutôt dur. Que de juger. C'est dur. Hein? Qu'est-ce qui provoque ça?
C'est l'économie d'énergie.
Ouais.
Parce que c'est ça demande un effort, la nouveauté. Souvenez-vous des acronymes là, définis par Sonia Lupien qui génèrent un stress. Là. C'est un petit acronyme qui dit se faire du ciné dans notre tête. Donc, les quatre lettres veulent dire un mot qui génère du stress. Donc, C pour le contrôle, I pour l'imprévisible, N pour nouveauté, puis E pour égo menacé. Donc, si vous êtes devant quelque chose que vous ne contrôlez pas, que vous ne savez pas qu'est-ce qui va arriver à l'avenir, que c'est nouveau parce que vous n'avez pas connu ça, cette pratique-là, puis que quelqu'un vous dit « Moi, il me semble que tu n'étais pas super bon en l'essayant. » Vous avez les quatre critères de stress dans le tapis. Puis qu'est-ce qui fait le cerveau quand il est stressé? Il régresse dans ses capacités adaptatives, fait qu'il va chercher le chemin le plus court. Puis c'est quoi le chemin le plus court? Ben, c'est ce qui permet de survivre. Il y en a juste trois. Combattre, fuir ou figer. Fait que juger... C'est une forme de contre-attaque, on pourrait dire, verbale ou mentale.
C'est un mécanisme de défense.
Ouais. J'éloigne de moi la menace en disant « c'est vraiment pas chaud ». Puis là, c'est une attaque pour éloigner la menace.
Puis il y a des gens qui vont juger par envie.
Ben oui.
Ils envient le guts de la personne d'avoir essayé ou d'avoir réussi. Et c'est une façon pour eux, finalement, de rejeter leur envie, j'ai l'impression.
Ouais, c'est difficile à gérer, ça, cette ambiguïté-là intérieure. Parce que le côté lumineux de l'envie, c'est de dire hey, « moi aussi, je voudrais
j'aimerais
avoir ça,
ça
dans ma vie ».
Mais le jugement est aussi un moteur de changement, un moteur d'avancement, une critique qui peut nous permettre d'évoluer, en quelque sorte.
Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut l'apprivoiser. Puis qu'il faut répéter à petite bouchée, à petite dose, ces apprentissages-là. Puis on construit de nouvelles compétences. C'est comme ça en psychothérapie également. On peut pas, le meilleur professeur de japonais ne peut pas vous apprendre le japonais en 3 heures. Mm. Bon, mais c'est un peu la même chose avec un psychologue. T'sais. Même si vous rencontrez le meilleur psychologue au monde, il ne peut pas vous transmettre toutes les connaissances en 2-3 rencontres. Là. Puis même des fois, vous allez juste avoir besoin de vous-même prendre la parole pendant 2, 3, 10 rencontres des fois. Puis le psychologue, il n'aura peut-être pas beaucoup de place pour pouvoir vous offrir du contenu. Fait qu'il faut se laisser le temps d'apprendre ces choses-là. C'est sensible.
Très intéressant. Toujours très intéressant. J'en perds mes mots. Je suis omnubilée par les paroles. Et là, OK, prochaine question.
Okay,
prochaine question du public via la boîte à mail. Pouvez-vous nous parler du principe de loyauté dans une relation conjugale?
Oh!
Ça n'est une bonne, ça.
Grande question.
Relié à l'engagement.
Mm-hmm.
Loyauté.
Loyauté, fidélité.
Ouais, c'est ça. Moi, je le mettrais en lien avec le fait de, même si vous vous faites offrir des opportunités en cachette, vous allez rester loyal à votre partenaire. Donc, vous n'avez pas besoin de vous dire, ben, si je me fais pas pogner, je saisis l'opportunité. Je pense que la loyauté, c'est intégrer en soi. C'est de dire, peu importe qu'est-ce qui arrive, moi, je vais faire des choix pour nous protéger.
OK.
Ouais, c'est une forme d'engagement, mais qui est comme un peu nuancée sur le fait de un engagement pas juste technique, là, un engagement de vertu à l'intérieur de soi.
À quel moment dans un couple, en fait, lors d'un début de relation, à quel moment est-ce qu'on devrait déterminer nos limites, discuter de c'est quoi tes limites en termes de relation, de fidélité, d'ouverture, de sexualité?
On peut en faire un bout avant la relation. On va aussi en
dès
faire...
la première date?
Ben, y a des gens qui vont avoir beaucoup travaillé sur eux. Hein. Dans les phases de la vie conjugale, on pourrait dire de nos antécédents, que ce soit notre style d'attachement de quand on était jeune ou nos antécédents d'expérience amoureuse précédente, vont avoir un rôle déterminant. Puis là, on entre à nouveau dans une relation de couple, on s'enchante, on est comme dans le « wow » jusqu'à temps qu'on vive les premiers conflits, puis là, désenchantement. Oh, à partir du désenchantement, si la relation survit, il va y avoir une autre phase après qui s'appelle la stabilisation. C'est là qu'il va falloir apprendre à se négocier des règles ensemble. Mais il y a des gens qui sont incapables de faire ça.
Ça, c'est en général autour de quoi? 2-3 mois environ, la phase de désenchantement en moyenne ou entre 3 et 6 mois?
Ouais, je ne saurais
en
pas
moyenne...
dire une grande garantie là-dessus. Okay. Parce que j'ai vu trop de variations, moi.
Mais est-ce que c'est inévitable ou c'est...
Le désenchantement? Oui. Oui, je pense que oui.
OK.
C'est inévitable dans le sens où la biologie ne peut pas rester toujours sur un même mode de stimulation. Okay. Fait que l'enchantement, l'émerveillement...
C'est dû à toute la chimie là, du corps, la chimie de l'amour qui... Ouais.
Moi, j'aime bien dire que c'est un mécanisme adaptatif que l'évolution a sélectionné pour altérer notre jugement afin de se rapprocher de quelqu'un qu'on ne connaît pas. On se souvient tout à l'heure que l'imprévisibilité, la nouveauté, ça faisait partie des critères qui génèrent du stress. Fait que quand vous êtes envahi par les hormones, là, c'est du désir, que vous êtes envahi par... tout d'un coup, une espèce d'excitation, d'effervescence que l'autre vous fait vivre intensément, ben, ça l'altère, votre jugement.
Oui.
Parce que pourquoi vous vous mettriez tout nu devant quelqu'un que vous ne connaissez pas?
Mm-hmm. J'ai vu récemment comme... de ne pas se mettre en couple lorsqu'on est dans cette phase-là. De ne pas officialiser un couple quand tu es en phase, justement, de passion, puis en début de relation, là, quand tu ressens tout ça, parce que tu ne connais pas réellement la personne.
Mais c'est un principe qu'on retrouve aussi dans le monde animalier, comme les oiseaux du paradis qui font la danse de l'amour. On pourrait-tu parler un peu de la même chose?
Ben oui.
Oui.
Oh oui, ça serait ça l'hypothèse psycho-évolutionniste. Hein.
Merci Darwin.
Exact. Et c'est tout un courant de la psychologie, ça.
Ah oui?
La psychologie évolutionniste, dans laquelle on va regarder des perspectives là, de sélection de comportements dans différentes cultures pour essayer d'éliminer la composante apprentissage. Puis on va plutôt regarder l'expression de la biologie dans son contexte. Mais c'est une science très imparfaite et quand même jeune, mais c'est intéressant.
Ah, tout à fait.
Max, il nous reste une question, mais avant que tu la poses, il y a quelqu'un sur le live qui demande tout simplement, qu'est-ce que l'amour?
Oh, on a tout...
Hey, c'est quand sûr... même une grosse question!
Tout le monde sait c'est de quoi qu'il parle en plus. Hein? Tout le monde ici qu'on est en train d'écouter, on sait c'est quoi l'amour. Mais si on l'écrivait, ben, tout le monde aurait une définition différente.
C'est vrai, tantôt tu m'as fait réaliser que c'est vrai qu'il n'y a pas une personne qu'on aime de la même façon.
Exact.
C'est fou.
C'est parce que, moi je vais vous dire mon hypothèse vraiment.
Yes.
L'amour, c'est un sentiment, donc un senti qui ment, qui est capable de mentir. Oh! Ça veut dire que c'est un apprentissage culturel, le sentiment amoureux. On ne vit pas le même sentiment amoureux avec toutes les personnes qu'on va parcourir ou qu'on va rencontrer dans notre vie. Puis chaque personne ici pourrait avoir sa définition de l'amour parce que justement, on l'entremêle de nos expériences personnelles.
Puis, tu sais, nos amis, nos enfants, notre famille... C'est toutes des formes d'amour différentes.
Ouais, les Grecs de l'Antiquité, il y avait des meilleurs mots qu'en français pour décrire ça.
Ah.
Le premier niveau de base, là, c'était l'éros. Ça, c'est l'amour de type érotique, génital.
Hey, on pourrait faire une capsule là-dessus parce que c'est ça, il y a... OK, let's go.
Le deuxième, c'est le storge. Ça, c'est l'amour de la tradition et de la famille. Ensuite, il y a la philia, qui est l'amour des amis. Des amitiés, des équipes, de travail, c'est ça, ouais, la filiation. Ensuite, il y a le philotia, ça c'est l'amour de soi, mais pas dans le sens narcissique du terme, c'est dans le sens épanouissement de son plein potentiel personnel et le développement de l'estime de soi. Bon, c'est le philotia. Et le cinquième au-dessus, ça serait l'agapé, qui est l'amour de l'acceptation inconditionnelle. Donc, quand on dit amour, est-ce qu'on parle de la même affaire à toutes les places? On voit qu'il y en a déjà 5 nuances ici, là, que je viens de vous dire.
Exact.
Ben, c'est une relation particulière entre deux humains.
Pourtant, on dit juste le mot amour.
Je pense que c'est plus que ça. Moi, je pense que j'irais même plus loin, là, sans vouloir te couper. Je pense que c'est ce qui englobe toute l'existence. C'est un peu le fondement même de la vie. C'est aussi grand que la nature. C'est ce qui nous propulse à être meilleurs. C'est ce qui nous alimente. C'est ce qui nous donne une raison d'être ici, fondamentalement.
Mais ça fait partie des besoins essentiels, je pense, que d'aimer puis d'être aimé.
Mais ça, c'est
amour propre, l'amour
parce que
pour les autres.
Vous êtes en train de vous définir par une activation du striatum quand vous dites ça. C'est un nerf cérébral, dans le fond, là, qui est très impliqué dans le rôle motivationnel. Puis la motivation, c'est ce que je mobilise comme énergie pour aller chercher quelque chose. Bon, ben, ces airs-là, c'est ça qui met le monde en mouvement. C'est ce qui nous rassemble tous ensemble. C'est ce qui est le plus puissant des rassemblements. Bon, ben, ça, c'est le striatum qui est en train de dire.
C'est mon désir d'être, de faire partie de la tribu, de faire partie
Il y a quelque chose en dedans de ta biologie qui a compris que cette affaire-là a beaucoup de valeur.
Okay.
Que ça vaut la peine d'y mobiliser plein de ressources en termes des ressources de temps, des ressources d'attention, des ressources de comportement.
Pour l'effet euphorisant que ça nous apporte.
Pour multiplier ce comportement-là parce qu'il est hautement récompensant, hautement motivant.
Il nous fait sentir bien.
C'est une nourriture, on pourrait dire, mais du monde affectif intérieur. Fait que c'est les mêmes mécanismes qui sont impliqués ou pas trop loin là, que celui de l'appétit. Sauf que là, c'est pas dans le striatum, l'appétit, c'est plus en dessous de l'hypothalamus, des petits noyaux.
Wow! Super intéressant, Doc! Ah, mais...
Petit cours de neurosciences en résumé.
Je vous aime!
Hey, mais ça passait à la vitesse de l'éclair comme toujours. Il nous restait même une question à laquelle on va répondre la semaine prochaine. Tout le monde, merci beaucoup d'avoir été sur le live TikTok. Et merci à tous ceux et celles qui ont également participé là, via le 418-670-9098. N'hésitez pas à écrire vos bons mots à Max, notre cher collègue d'amour qui sera un peu moins souvent avec nous, mais toujours présent quand même dans le show. Là.
Ben oui, absolument. C'est le beau Nick Loutier qui va venir
notre cher
prendre
Nick,
le relais à compter de lundi.
On a eu bien du plaisir avec Nick d'ailleurs en tant que sexplorateur d'un soir, puis on n'arrêtait pas. Moi, je voulais avoir Nick, en fait. Nick est un musicien en plus. Et je lui disais, hey, je veux faire un show sur les tunes d'amour et les tunes les plus sexuelles. Et les plus sexuelles. Donc, Donc, on va regarder tout ça. Mais vraiment, Max, c'est un bonheur de travailler à tes côtés. Vraiment, là, je suis un peu jaloux de la gang du midi, là, mais en tout cas.
Fait que... ça a été un bonheur aussi.
Vraiment, merci. Merci, 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 chers auditeurs et auditrices, d'être avec nous. Doc, avant de quitter tout ce beau monde, dis-nous donc, comment est-ce qu'on peut te rejoindre?
Eh bien, si les gens veulent me retrouver, qui veulent une consultation ou avoir de l'information sur mes différents services, ils ont juste à regarder sur le web. Là, Dr Paul Simard, psychologue, toutes mes coordonnées sont là. Je suis facile à rejoindre. J'ai pas de liste d'attente. Oui, je peux vous recevoir rapidement, mais là, ça va être à vous de faire la démarche de me contacter. Hein. Moi, je suis toujours surpris des gens sur les réseaux sociaux qui disent « Moi, je veux vraiment rencontrer un psychologue, je veux vraiment quelqu'un tout de suite, puis je vais me mobiliser. » Puis là, ils contactent pas psychologue.
J'ai pas son numéro de fax.
Fait qu'il faut attendre d'être prêt. Puis se faire représenter les disponibilités. Puis si ça peut dissoudre certaines résistances à des gens, tant mieux, je serai disponible.
Puis c'est un fit, hein, de trouver le bon psy pour soi.
C'est
donc...
ça, je suis pas forcément le bon psychologue
exact.
Pour tout le monde.
C'est ça qui est difficile, tabarouette.
Exact.
Merci beaucoup, tout le monde, chers auditeurs et auditrices. Merci, Doc, d'avoir été avec nous. Merci, Max. Toujours un plaisir.
Merci à toi.
À demain avec Ludivine et Alexine. Donc, demain soir, c'est Ludivine du podcast Si Sexe Si. Beaucoup d'auditeurs nous ont écrit à ce sujet-là, comme quoi ils avaient adoré son podcast, qui est très graphique.
Elle est bonne, Ludivine.
Très sexuelle. Donc, ça vaut
podcast,
la peine d'aller écouter Si Sexe Si, de Ludivine. Demain, va nous faire une lecture avec Alexine Queen, qui sera avec nous également en studio. Donc, c'est un rendez-vous. Demain soir, 22h, vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix 98h Radio X.
La Sexploratrice.
Avec Mel Trudel. Radio X.